Rapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Bonsoir, bienvenue dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On est de retour ce soir pour parler du contrôle des allocataires et on va en profiter pour refaire le portrait de la CAF et de Pôle emploi principalement, dont on pense beaucoup de choses. Alors, avant de commencer, donc c'est Carapatage. Vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. Nous écrire par mail carapatage@riseup.net. On a aussi un blog. Et vous pouvez nous écrire sur Instagram @carapatage. Voilà, moi c'est Henri et ce soir je suis accompagnée de deux acolytes.
Salut, c'est Kate.
Bonsoir, c'est Pitou.
Et à la technique ?
Salut, c'est Pile.
Alors, ce soir, avant de refaire le portrait de Pôle emploi et de la CAF, on voulait donner quelques nouvelles, quelques infos récentes, à commencer par l'annonce de l'ouverture d'un centre de rétention administrative à Nantes.
Oui, alors dans la continuité des politiques qui visent à enfermer toujours plus de personnes qui n'ont pas les bons papiers, il y a Gérard Darmanin qui a annoncé l'ouverture dans les plus brefs délais d'un nouveau CRA en Loire-Atlantique, dans un contexte où la maire de Nantes déjà annonce des mesures toujours plus sécuritaires aussi pour sa ville, avec le renforcement du nombre de policiers municipaux et de caméras de surveillance. Et en fait, actuellement, le CRA le plus proche de Nantes, c'est à Rennes, à une centaine de kilomètres, et un des arguments de la préfecture et de Darmanin pour la construction d'un CRA à Rennes, d'un CRA à Nantes, c'est que le transfert vers Rennes des personnes expulsées sous le coup d'une obligation de quitter le territoire mobilise des moyens policiers. Donc voilà, et depuis cette annonce, il y a eu un rassemblement et une manif qui ont été organisées pour lutter contre ce projet.
Ouais, ça s'inscrit dans la politique de toujours construire plus de CRA partout en France, dont on a parlé dans plusieurs émissions et vous pouvez retrouver des infos sur notre site internet.
Il y a notamment trois projets, dont certains qui sont arrivés à bout à Lyon. Enfin, il y avait trois projets à Lyon, à Bordeaux et à Orléans. Et il me semble qu'à Lyon, c'est soit terminé ou voire inauguré, je ne me souviens plus. Inauguré, a priori. Enfin, déjà ouvert.
L'autre nouvelle dont on voulait parler ce soir, cette fois-ci un peu plus réjouissante, c'est une mutinerie qui a eu lieu au centre de détention de Toul.
Ouais, Toul, c'est en Meurthe-et-Moselle. Et en fait, fin octobre dernier, il y a un détenu qui, visiblement, en avait ras-le-bol de ses insomnies. En tout cas, c'est ce qu'il a fait comprendre en montant sur le toit de la tôle et en revendiquant d'avoir un nouveau matelas pour régler du coup ses problèmes d'insomnie et puis pour négocier son nouveau matelas, il a commencé à démonter le toit en jetant une par une les tuiles du toit, au point qu'à la fin il y avait carrément des énormes trous dans le toit. Il est quand même resté 4 heures sur le toit. Il a a priori, si on comprend bien l'article, menacé de lancer des tuiles sur les pompiers qui voulaient venir le chercher. Et d'après ce qu'on comprend aussi, il s'est un peu fait avoir dans les négociations, il est descendu de lui-même et évidemment il n'a pas obtenu son matelas. Il a obtenu surtout d'être condamné à une peine de 18 mois ferme supplémentaire par le tribunal correctionnel de Nancy. Et au passage, il était incarcéré depuis 4 ans et demi et il avait déjà fait une tentative d'évasion dans une tôle à proximité dans la Meuse. Voilà, en tout cas, courage à lui. Et voilà, c'était un... un moment individuel qui avait l'air très courageux.
Moi, j'allais continuer en début d'émission avec les chiffres de la justice. Donc, le ministère de la Justice vient de sortir ces chiffres et j'avais un peu envie de partager certains trucs que j'ai lus. Au 1er octobre 2022, il y avait 72 000 prisonniers en France pour 60 000 places. Les deux chiffres continuent toujours d'augmenter, c'est-à-dire que... on a toujours de plus en plus de places de prison, mais toujours de plus en plus de prisonniers aussi. Et les maisons d'arrêt, à titre d'exemple, ont un taux d'occupation moyen de 128%. Ça veut dire que c'est extrêmement surpeuplé, toujours des conditions d'emprisonnement très très difficiles. Et c'est au 1er octobre 2022 aussi, il y a fait environ 2000 prisonniers qui dormaient sur le sol. Aussi, ce qu'on voit dans ces chiffres, c'est que 60% des placements en détention provisoire viennent toujours de comparution immédiate. Donc, la comparution immédiate qui sert toujours à mettre beaucoup de gens en taule. Et aussi que les peines de prison moyennes pour un délit, c'est de 9,6 mois. Donc, c'est à la fois... c'est toujours des peines courtes et les gens ont tendance à rentrer et à sortir. Et le délit pour lequel les gens ont été le plus condamnés, c'est la circulation routière et les transports. Voilà ce qu'on trouvait en lien avec la sécurité routière et les transports. Voilà ce qu'on trouvait dans les chiffres de la justice au 1er octobre 2022. On continue avec... on revient sur les CRA, avec une révolte au CRA de Perpignan.
Ouais, même s'il y a des CRA qui se construisent et qui sortent de terre, il y en a d'autres qui partent un peu en fumée, en tout cas en partie. Et c'était le cas à Perpignan, mardi, hier, plus précisément, où en gros, il y a eu des départs de feu dans trois bâtiments parmi les quatre du CRA de Perpignan. Vers 19h. Tout ce qu'on sait plus, enfin ce qu'on sait, je sais pas, ce que moi en tout cas j'ai pu lire dans la presse, c'est qu'il y a 6 des retenus qui ont été transférés dans d'autres centres, dans d'autres CRA à Toulouse, Nîmes et 7. D'après le préfet, pour casser les groupes qui posent des difficultés, du coup visiblement c'était pas la première fois qu'il y avait une révolte dans ce CRA. Et du coup, il y a une enquête qui a été ouverte pour dégradation volontaire par incendie. En tout cas, encore une fois, courage à elle.
Ouais, force aux personnes qui sont dans les CRA et qui se révoltent contre ce qui se passe dans les CRA et contre les expulsions. Voilà pour les brèves dont on avait envie de parler aujourd'hui. Du coup, comme je le disais au début de cette émission, ce soir, on avait envie de parler du contrôle qu'exercent sur nous les institutions que sont Pôle emploi et la CAF, dans la continuité en fait de ce qui se passe en prison. Mais c'est Pitou qui va nous expliquer ça un peu plus précisément.
Ouais, j'ai l'impression que la réflexion de départ, dans cette émission, on a envie de parler de la tôle vue dans son ensemble. Du coup, pas seulement les quatre murs de la cellule, mais aussi ce qui à l'extérieur participe de l'enfermement. Et donc, il y a les maillons de la chaîne les plus évidents qui sont les tribunaux, les flics, les juges. Mais il y a aussi un peu toute une continuité moins directe qui a à voir avec toute une panoplie d'outils de contrôle qui sont évidemment moins violents, moins contraignants qu'une cellule de prison. Mais qui, entre guillemets, on peut dire, cherche un peu à nous enfermer ou à enfermer nos existences dans des carcans, en tout cas dans le carcan de l'État et de ses institutions. Et donc dans cette émission, on est déjà revenu à plusieurs reprises sur ces, tout ce contrôle de l'État, et notamment en parlant de la vidéosurveillance, mais aussi en parlant de l'école, en parlant du confinement aussi. Et pour continuer dans cette lancée, ce soir, on voulait parler du contrôle des allocataires. Alors, tu disais la CAF, Pôle emploi, essentiellement, mais on pourrait aussi parler de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse. Et un peu dans l'idée de parler de bah, comment l'État, avec ses institutions sociales, cherche un peu à dicter nos vies selon les droits qu'il nous accorde et dont on devrait se contenter, mais aussi selon les sanctions qu'il nous inflige si on cherche à avoir plus que ces droits-là. voilà, simplement, bah, en bref, le contrôle exercé par les pourvoyeurs d'alloc, et soit on parlera essentiellement effectivement de la CAF et de Pôle emploi, ça peut imposer un rythme de vie qui laisse peu de place à l'imprévu. On part un peu de ce constat-là dans l'émission. Quand t'es allocataire, ta vie, elle est pas réglée par le travail, mais elle est réglée par plus ou moins par le contrôle que ces institutions t'imposent. Du coup, l'idée ce soir, ce sera de revenir un peu sur les différentes formes de ce contrôle, mais parce qu'on n'a pas envie non plus de dresser un tableau tout noir dont on ne verrait aucune issue, donc on a envie aussi de parler de comment on peut vivre avec ce contrôle, parce que de toute façon on y arrive bien, et comment on se solidarise face à cette emprise, et comment on limite l'emprise de ce contrôle sur nous. Mais je crois que j'ai l'impression que dans une première partie, on va revenir plus sur les origines des institutions, ce que sont ces institutions, la CAF Pôle emploi essentiellement. Après, une deuxième partie, on parlera plus des mesures de contrôle, et puis à la fin, comment on lutte et comment on se soutient, on se solidarise face à ce contrôle.
Des combines qu'on peut échanger, de comment on peut faire, des endroits et des collectifs qui s'organisent vis-à-vis de ça. Parce que ce dont on va parler ce soir, c'est que c'est vrai que c'est des institutions qui ont beaucoup de possibilités de nuire, de pouvoir sur nos vies, de possibilités de contrôle. Et déjà, le savoir et savoir comment ça marche, c'est une manière de s'en défendre. Et ça, ce sera aussi quelque chose dont on va parler. Et puis savoir comment contourner, savoir comment se débrouiller avec tout ça, quoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer notre première musique, c'est Zoufri Maracas, J'aime pas travailler. Donc on avait envie de passer cette musique qu'on a découverte en préparant l'émission parce qu'elle nous faisait rire. On prévient, elle est un peu cliché, mais on aime bien rire aussi dans Carapatage, surtout quand on traite de sujets un peu compliqués. Donc c'est J'aime pas travailler de Zoufri Maracas.
Travailler plus, gagner plus, j'aurai moins de temps. Le temps c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.
J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas travailler du tout. Moi ce que j'aime c'est glander, quand je glande faut pas m'emmerder, et pour être sûr de me lever tard, je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron, tu crois que je te prends pour un con.
Ça bouge sudain.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais travailler du tout. Et si un jour un beau matin je dois m'en aller au turbin, partirai pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République d'Aglande. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ça sera un pays sans mort. Pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire taper à genoux, je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, papa, je ne cherche même pas d'emploi. Et le reste vivoter au soleil sans préoccuper, soleil sans préoccuper, soleil sans préoccuper.
Voilà, on espère que vous avez vraiment kiffé ce son exceptionnel qui nous a encore refait rire à son écoute là dans le studio. On n'aime pas travailler à Carapatage, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, commençons par parler de ce que sont la CAF et Pôle emploi. Comment ça marche, d'où elles viennent, comment elles évoluent, etc. Mais avant ça, pour commencer cette émission, enfin, pour, ça fait un petit moment qu'on commence, mais disons pour continuer cette émission, sur le contrôle des allocataires, parlons un peu de comment le sujet des allocs est abordé médiatiquement et politiquement. L'idée couramment répandue, c'est que tous les allocataires sont de potentiels fraudeurs, qu'il y a de nombreux abus, que ça coûte cher à l'État et aux contribuables, que c'est une question de volonté et que les bénéficiaires d'alloc, en vrai, ils pourraient tout aussi travailler au lieu de se faire entretenir par les autres. C'est des idées, en vrai, qui sont souvent assez éloignées de la vie des gens qui sont au chômage, au RSA ou qui touchent des allocations familiales. Mais ces idées et leur diffusion sont pratiques parce qu'en fait, elles permettent de justifier le contrôle dont nous allons parler ce soir, le flicage intensif et aussi les politiques de restriction des accès, de baisse des allocs. Ces méthodes politiques, elles ne sont pas uniquement utilisées en France. Elles sont aussi très répandues aux États-Unis, où dans les années 70, Ronald Reagan, il a popularisé le concept de « welfare queen ». Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La « welfare queen », c'est la reine des allocs. En « welfare queen », en anglais, ça veut dire « reine des allocs ». Et c'est un concept qui réussit à être à la fois raciste et misogyne en faisant référence au fait que les femmes noires feraient des enfants pour avoir des allocs et seraient feignantes. Donc, Ronald Reagan, quand il faisait campagne pour devenir gouverneur, puis président, il parlait d'une femme de Chicago qui se faisait 150 000 dollars par an sur le dos de l'État grâce à des fraudes et à des escroqueries aux allocs. Alors, cette femme, elle a vraiment existé. On mettra des infos sur le blog sur cette histoire. Et du coup, à ce moment-là, le sujet est devenu un sorte de marronnier très prisé par les journalistes aux États-Unis. À la fois par les journalistes et aussi par les politiciens. Et donc, c'est devenu très courant d'agiter la figure de la welfare queen, une mère célibataire afro-américaine qui faisait des enfants pour les allocs. D'agiter cette figure en politique et de faire croire aux électeurs qu'on peut mieux vivre grâce aux allocs et en fraudant, contrairement à eux qui travaillent durement et donc qu'il y a une injustice à combattre. En France, on n'est pas du tout en reste avec ce genre de préjugés sexistes et racistes. Il y a des préjugés couramment répandus de les femmes feraient des enfants juste pour les allocs, notamment les femmes, les mères noires ou arabes, que les immigrés viendraient en France pour bénéficier des allocs sans travailler. Des idées qui sont chères à l'extrême droite, avec des pseudo-enquêtes ou reportages journalistiques sur le sujet qui font la une, telle famille touche 10 000 euros par mois d'allocs, etc. Le message est clair, il faut détester les pauvres. Et les pauvres méritent d'être pauvres et devraient le rester. Et d'ailleurs, n'ont pas le droit de manger à leur faim et de survivre, en fait. Voilà, ça, c'était un peu la première entrée qu'on a eue dans le sujet de comment sont perçus les allocataires, en fait, comme tous de potentiels fraudeurs. Et donc, toutes les mesures de contrôle dont on va parler dans la suite de l'émission... sont justifiés en partie par ces idées-là.
Et dans le même temps, je rajoute un petit truc. Il y a effectivement des gens qui arrivent à frauder la CAF et Pôle emploi et qui ont aussi bien raison de se servir. Et qui évidemment du coup ça dont l'État
ça
se sert
nourrit,
c'était juste pour
Ouais, en fait c'est ça le truc sur ce que Reagan faisait dans les années 70-80, c'est qu'en fait cette meuf là elle a existé, c'était une génie, elle s'inventait des maris morts de vétérans, des maris anciens vétérans morts pour toucher plein d'aides, elle avait 5 ans d'identité différentes et voilà, et du coup c'était un travail à plein temps. Et elle vivait sur des allocs touchés de manière... Enfin voilà, des escroqueries, quoi. Mais voilà, enfin, bravo à elle d'avoir réussi à toucher autant d'argent de l'État en faisant ça, quoi. Et voilà, mais en parallèle, c'est des histoires qui servent à alimenter une méfiance, quoi. On continue avec peut-être plus une discussion sur... Une présentation plus sur ce qu'est la CAF, la Caisse des Allocations Familiales.
Ouais, alors je vais revenir mais très 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 rapidement sur l'histoire de la CAF. Enfin, la CAF, ça a été créé en 1945 et avant ça, ça existait déjà les allocations. Il y avait déjà un peu des allocations familiales mais qui étaient versées par les employeurs dans des trucs plutôt de charité chrétienne. Puis après, des objectifs natalistes dans l'entre-deux-guerres pour encourager les femmes à faire plus d'enfants. Et après, en 1945, la CAF, ça a été créé, ça a unifié un peu toutes ces allocations familiales. Et aujourd'hui, la CAF, elle verse plusieurs aides sociales, dont le RSA. Et en fait, je voulais un peu revenir aussi sur la prochaine réforme du RSA et de ce que devient la CAF et les moyens de contrôle. Et en fait, le projet de réforme du RSA, il veut conditionner le versement du RSA à 15 ou 20 heures d'activité hebdomadaire, où en fait, tout allocataire, pour continuer à pouvoir toucher son RSA, il devra se soumettre à 15 ou 20 heures d'accompagnement, d'activité de tout type. Ça dit que ça peut être des formations, des démarches, des ateliers collectifs, pour travailler sur son projet dans, ils disent, une logique d'engagement réciproque et de devoir. Et en fait, cette mesure, elle va être testée là à partir de 2023 dans 10 départements avant d'être étendue. Et en fait, on voit que c'est une mesure qui cherche à mettre au travail de force les allocataires du RSA et de se mettre à toujours plus de contrôle, et notamment un contrôle de leur temps, de ce qu'ils font de leur vie. Enfin, 15-20 heures d'activité hebdomadaire, c'est énorme. Et en fait, c'est dit aussi que les heures travaillées, si c'est 15 ou 20 heures, c'est des heures de travail, ça devra être rémunéré, mais c'est précisé qu'il devrait y avoir des avantages pour les patrons, par exemple au niveau des cotisations, pour les inciter à faire travailler ces allocataires du RSA. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'organisation de l'exploitation toujours plus de des allocataires qui peuvent devenir une nouvelle main-d'œuvre pas chère.
Ouais, ça c'est vraiment la loose. Enfin, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'on te donne 520 euros par mois, même parfois moins, parce que selon ta situation, le RSA, ça peut être moins. Et en fait, tu dois les mériter, ce montant qui est vraiment pas forcément élevé, quoi. Et donc, on te fait travailler pour ça. Et le travail, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées dans les discussions sur ça. C'est du travail dans des associations, donc ça va bénéficier à des grosses associations qui vont du coup pouvoir faire travailler de la main-d'œuvre pas chère, voire pas du tout rémunérée. Voilà quoi. Donc encore, dispositif de contrôle du temps des personnes qui sont au RSA, quoi.
Ouais, et pour te forcer à retrouver d'autres tafs que le RSA.
Ouais.
Parce que. Et en fait, cette mesure, elle sera sûrement mise en place par France Travail, qui est l'organisme qui doit réorganiser un peu Pôle emploi. Et du coup, je peux enchaîner un peu sur... du coup, sauf si vous voulez dire des trucs sur la CAF.
Non,
vas-y.
Sur Pôle emploi, un peu l'historique de Pôle emploi. Pôle emploi, ça existe depuis 2008 et c'était une fusion de la NPE qui était l'Agence nationale pour l'emploi, qui était chargée d'effectuer des stats sur les chômeurs et de contrôler leurs démarches et leur retour à l'emploi. Et une fusion avec les ACEDIC, qui était l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, qui était chargée du calcul des droits de l'indemnisation et du paiement des allocations chômage. Et du coup, avec cette fusion, ça crée genre un organisme unique pour à la fois indemniser les chômeurs et contrôler leur recherche d'emploi. Et là, en fait, la nouvelle réforme, ça va être qui est voulu, ça va être de transformer Pôle emploi en France Travail.
Mais ça fait peur. Enfin, je suis désolée. Ouais.
Le nom est terrifiant.
Le nom est genre France Travail.
Et ça doit réorganiser, c'est pour genre fusionner, enfin, pour réorganiser Pôle emploi, mais aussi les missions locales et des assos qui travaillent avec ces institutions autour d'un guichet unique. Et en fait, il y a une dizaine d'expérimentations locales qui vont être à partir de 2023 pour que ça puisse commencer dans toute la France en 2024. Et en fait, ça dit que ça veut améliorer l'accompagnement des personnes sans emploi, en particulier les plus éloignées du marché du travail, et mieux répondre aux besoins en main-d'œuvre des entreprises, en faisant en sorte que les conseillers de Pôle emploi et des missions locales soient davantage en relation avec les recruteurs. Et en fait, ça va être dans les faits, renforcer la contrainte qui pèse déjà sur les chômeurs et les chômeuses, et de renforcer toujours plus leur mise au travail contrainte. Et en fait, cette mise au travail, ça va aussi avec une réforme de l'assurance chômage qui vient d'être passée là, normalement, il me semble. Et donc avec cette réforme, à la fois quand on abandonnera son poste ou si on refuse une proposition de CDI après un CDD ou une mission d'intérim deux fois en l'espace d'un an, on sera genre privé des allocations chômage, et ça va moduler l'assurance chômage en fonction de l'emploi. Et du coup, l'accès à l'assurance chômage sera plus difficile quand il y aura trop d'emplois, considérés comme trop d'emplois vacants non pourvus, et moins strict quand le chômage sera élevé. Et du coup, voilà, c'est...
Ouais,
toujours
ça, c'est
plus de travail, quoi. Toujours
c'est
plus
la
de
question
mise au travail,
des
quoi.
Secteurs en tension, genre.
Ouais, c'est ça, et aussi.
Les secteurs où prétendument, genre la restauration, le bâtiment, etc., où il y a beaucoup d'offres d'emplois vacantes, parce qu'en fait, c'est des secteurs genre où le taf est super difficile et genre potentiellement les gens veulent pas travailler dedans, sauf s'ils ont pas le choix. Et du coup, voilà, l'idée ce serait de forcer les gens à travailler dans des secteurs où.
Et de rester dans ces secteurs pour pas perdre leurs droits aux allocations.
C'est ça. Et ouais, ça va devenir de plus en plus difficile de toucher des droits au chômage, de toucher des allocations et de s'inscrire. Et tout est fait pour genre, restreindre de plus en plus ces droits et forcer les gens à travailler des tafs qu'ils n'ont pas envie de faire, quoi. On s'écoute une petite musique pour faire une petite pause. Alors, la prochaine musique qu'on va écouter, c'est « Heterosexuality is a Construct ». L'hétérosexualité est une construction, en français, de « White Night Stand in North Dakota ».
You're in their lives, there've been moments when they've whispered in their minds. One more comment, one more joker, don't accept it. I won't tolerate intolerance this time. I'm not a heterosexual man, not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your knee little plan, and I never will. I'm not a heterosexual man, not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your knee little plan, and I never will. Jesus Christ, I'm done with it, you narrow-minded piece of shit. I'd sooner cut off my own dick than be like you. Did that make you uncomfortable? Is your macho pride in trouble now? When you're beating me up, then what will you do? Sexual man, not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your mean little plan, and I never will. I'm not a heterosexual man, not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your mean little plan, and I never will.
is not a crime. And I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender and it's about time you nailed your colours up next to mine. Love is not a crime, and I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender and it's about time you nailed your colours up next to mine. Love is not a crime, and I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender and it's about time you nailed your colours up next to mine.
De retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Alors, avant de passer à la suite de l'émission et une petite performance artistique marrante qu'on vous a réservée, je voulais traduire le refrain de la chanson qu'on vient d'écouter. Donc, Heterosexuality is a construct. Et le refrain, c'est « Je suis pas un mec hétéro, je coche pas tes cases, c'est pas ce que je suis. Non, je corresponds pas à ton petit plan précis et ce sera jamais le cas. » Alors là, avant de passer à la suite de l'émission et de parler plus spécifiquement de comment ça se passe les contrôles de la CAF et de Pôle emploi, on voulait vous faire une lecture dramatique des devoirs du chômeur ou de la chômeuse que l'on doit accepter quand on s'inscrit à Pôle emploi. Vous vous inscrivez sur la liste des demandeurs d'emploi. Vous devez respecter les obligations du Code du travail et vous vous engagez à déclarer chaque mois votre situation en répondant à des questions. Vous pouvez effectuer cette actualisation par Internet en vous connectant sur Pôle emploi, sur votre application mobile, Mon Espace ou par téléphone au 3949. Vous devez vous munir de votre identifiant et de votre code personnel. Définir et actualiser avec votre conseiller votre projet personnalisé d'accès à l'emploi. Ne pas refuser deux offres raisonnables d'emploi sans motif légitime. Vous rendre à tous vos rendez-vous. Accomplir et pouvoir justifier des démarches en vue de retrouver un emploi, de créer, de reprendre ou développer une entreprise. Accomplir et pouvoir justifier des démarches en vue de réaliser votre projet de reconversion professionnelle. Accepter une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle. Ne pas vous absenter. Ne pas abandonner une action de formation sans motif légitime. Ne pas faire de fausses déclarations pour être inscrit ou rester inscrit sur les listes de demandeurs d'emploi. Ne pas faire de fausses déclarations pour percevoir des allocations. Et finalement, signaler tout changement de situation dans un délai de 72 heures, notamment en cas de changement d'adresse, d'entrée en formation, de reprise de travail, de maladie, de maternité, blablabla. Nous attirons votre attention sur l'importance de respecter ces obligations. À défaut, vous risquez une décision de radiation qui entraîne l'interruption de vos paiements et la suppression de vos indemnisations, blablabla. En cas de fausses déclarations ou de fausses informations, pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, vous pouvez être puni d'une peine d'emprisonnement et ou d'une amende. Et c'est ça dont on va parler plus précisément dans la suite de l'émission. Alors, pour commencer, on a des institutions que sont la CAF et Pôle emploi qui font une utilisation de l'informatique et du numérique assez poussée, notamment avec la promesse de simplifier les démarches, d'aller plus vite et que ce soit moins pénible pour les utilisateurs. Alors ça, c'est la promesse. En fait, il ne faut pas se réjouir trop vite parce que, en réalité, derrière, ça donne à ces institutions une grosse possibilité de flicage. Là sur la suite de l'émission, sur cette partie-là, je vais me baser sur un texte du collectif La Quadrature du Net et du collectif Stop Control, dont on parlera plus plus tard sur des possibilités de lutter et de s'organiser. C'est un texte qui parle plus précisément de l'algorithme de la CAF. C'est un algorithme en fait qui permet de calculer quels allocataires sont les plus susceptibles de frauder selon la CAF, avec toutes les données qui sont disponibles sur les espaces en ligne qu'on donne en fait. La CAF a développé un algorithme qui permet, selon eux, de déterminer à partir de profils plus à risque qui sont les personnes qui seraient plus susceptibles de frauder. Donc leur algorithme en fait il cible les personnes les plus pauvres, les personnes étrangères et les mères célibataires par exemple. Sous prétexte que c'est un algorithme qu'il fait, ce serait uniquement technique et scientifique et donc aucune décision discriminatoire derrière. Et ce qu'explique cet article, c'est que l'algorithme, en fait, il détecte pas uniquement la fraude et en fait pas majoritairement la fraude, mais surtout les erreurs que font les gens dans les déclarations, comment les gens, en fait, se plantent, sont perdus dans des démarches qui peuvent être compliquées. Et en fait, plus on est en difficulté dans la vie, plus on a des galères, plus on est à même de faire ce genre d'erreur de déclaration. Donc en fait, c'est vraiment enfoncer les personnes qui galèrent déjà. Et d'autre part, les démarches administratives peuvent être hyper compliquées, peuvent être hyper kafkaïennes, en particulier celles en lien avec les minima sociaux. Par exemple, la CAF, elle va te considérer en fraude si tu as oublié de déclarer un changement dans ta vie, comme je le disais tout à l'heure dans cette liste d'obligations que tu as quand tu t'inscris à Pôle emploi, et ou que voilà, que t'as oublié de faire ou que tu n'as pas compris que tu devais faire quoi. Cet algorithme et ces contrôles, ils permettent à la CAF de limiter les trop perçus. Et donc, du coup, d'avoir l'air d'une institution bien gérée, d'une institution qui se porte bien. Et donc, du coup, de pouvoir faire son autopromotion et de montrer dans ses rapports qu'elle est bien gérée. Tous ces critères-là et cet algorithme, ils servent à la CAF à déclencher des contrôles. Et donc là, c'est des agents, des personnes, qui vont procéder à ces contrôles-là. Et pour ces contrôles-là, on va voir qu'en fait, ils ont accès à beaucoup, beaucoup de nos informations et ils vont pouvoir même les recouper avec d'autres institutions comme Pôle emploi, les impôts, l'assurance maladie, demander à notre banque, ils ont l'autorisation de demander à notre banque nos comptes bancaires, nos relevés d'énergie, notre facture de téléphone et même de poser des questions à nos employeurs. Et Pitou, il reviendra de comment ça marche et de comment les fichiers se recroisent. Voilà, c'est un niveau d'intrusion dans la vie privée des gens qui est vraiment élevé quoi. Et en plus de ça, quand il y a ces contrôles, soit les gens font des erreurs en se déclarant, soit ils essayent de frauder, soit ou même quand la CAF fait des erreurs, il y a genre une sorte de conflit qui va se créer entre la personne et la CAF. Mais en fait, dans ces conflits-là, la personne, les allocataires, on n'est pas du tout à égalité avec la CAF parce que c'est difficile de les contacter, c'est difficile de faire des recours. Et donc, les institutions face à nous, elles prennent des décisions unilatérales, par exemple, d'arrêter de nous donner nos aides du jour au lendemain. Ça met les gens dans des situations vraiment très compliquées avec des possibilités de recours qui sont pas non plus énormes, qui prennent du temps, et où on ne sait jamais si on aura une réponse positive. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que selon l'État et les décisionnaires, la CAF est un modèle à suivre, en fait. Et cet algorithme et cette manière de fliquer les gens et de déclencher des contrôles va être amené à se généraliser à toutes les institutions et qu'elles développent voilà, des algorithmes de notation similaire. L'article sur lequel je me suis basée pour vous parler de tout ça, il explique aussi que le collectif du coup de la Quadrature du Net et de Stop Control ont commencé à, genre, quand ils distribuaient des tracts, ils faisaient des actions autour de ces questions-là, à être intimidés par des flics, à avoir des appels, des intimidations de la part du renseignement, etc. Leurs actions et leurs... Voilà, le discours qui développe fait, enfin voilà, et sur surveillance voilà, il y a une intimidation de l'État aussi par rapport à, aux actions pour lutter contre, contre ce contrôle, quoi.
Et du coup, moi, en parlant de contrôle intrusif aussi de la CAF et des moyens de contrôle qu'a la CAF, moi, je voulais parler des contrôles domiciliaires. Et en fait, les contrôles domiciliaires, c'est quand il y a un agent de contrôle de la CAF qui se déplace au domicile de l'allocataire pour vérifier ses déclarations. Et en fait, pour parler de ces contrôles et des moyens de se défendre face à eux, je vais m'appuyer sur une brochure qui a été faite il y a quelques années par le collectif des cafards de Montreuil, dont on parlera un peu plus tard aussi dans les moyens de lutter. Et on pourra mettre la brochure en lien sur, sur le blog. Donc en fait, un contrôle de la CAF, donc ça peut être soit le contrôleur, il peut venir soit sans prévenir, soit il peut informer à l'avance de sa visite. Et en fait, en cas de visite surprise, déjà, on peut lui refuser l'accès et le contrôle à l'improviste et demander un autre rendez-vous pour s'y préparer. Parce que voilà, dans la brochure, il conseille vraiment de s'y préparer. On va voir après un peu comment. Et en fait, refuser un contrôle surprise, c'est aussi marquer le fait qu'on n'est pas à la disposition de la CAF, qui peut se pointer chez nous quand elle veut pour vérifier comment on vit. Et si le contrôleur rentre sans le consentement, c'est une violation de domicile et il ne peut pas utiliser les infos qu'il aura récoltées. Donc en venant au domicile, le contrôleur, il peut chercher à vérifier plusieurs choses. Donc déjà les revenus, parce qu'il peut avoir accès, du coup, comme tu disais, au relevé bancaire. Il va aussi essayer d'évaluer le train de vie. Il peut essayer de vérifier et de contrôler la situation familiale. Par exemple, vérifier qu'on n'est pas en couple si on a déclaré être célibataire. Il peut vérifier la situation du logement. Pour les personnes qui touchent le RSA, il peut demander les relevés de compte bancaire. Il a le droit aussi de demander un document d'identité. Et souvent, il va demander avoir le passeport pour vérifier les déplacements et la présence en France. Et après, il peut poser de multiples questions pour obtenir des aveux ou des contradictions pour essayer de prouver qu'on est coupable d'une manière ou d'une autre. Et si on refuse de répondre à certaines questions, le contrôleur il peut estimer qu'il y a une absence de collaboration de la part de l'allocataire et les droits peuvent être suspendus. Aussi, une des pratiques courantes des contrôleurs dans le cadre des visites à domicile, c'est l'enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'ils vont recueillir des témoignages de voisins, voisines sur le mode de vie des allocataires. Et en fait, lors des contrôles, ils peuvent essayer de coincer les gens sur ces témoignages en disant que, par exemple, que les voisins ont témoigné qu'ils voyaient toujours une même personne rentrer et sortir. Mais en fait, il faut savoir que ces témoignages, c'est pas des preuves suffisantes et qu'en fait, les documents écrits qui justifient une autre situation, ça va primer sur des témoignages. Et du coup, il faut pas se laisser avoir par ces témoignages et paniquer face à eux. Et en fait, c'est vraiment des contrôles qui sont intrusifs et en fait, on ne peut pas s'y soustraire parce que si on s'oppose au contrôle, que ce soit explicitement, soit si on n'est pas là pendant deux tentatives de visite, ou si on ne donne pas les pièces justificatives demandées, les aides, elles peuvent être partiellement ou totalement suspendues. Et en fait, dans cette brochure, pour faire face à ça, le collectif donne un peu des manières de faire face plus collectivement et de limiter, de faire face collectivement à ces visites et de limiter le pouvoir du contrôleur pour limiter son accès à notre intimité. Et du coup, pour ça, je voulais genre lire un petit bout de témoignage qu'il y a dans la brochure. Donc, ça s'appelle « Contrôler les contrôleurs ». Le mercredi 18 novembre, un contrôleur CAF pêche chez moi sans aucune communication préalable. Le mec ne trouve personne et laisse dans la boîte aux lettres un avis de passage pour une date de rendez-vous obligatoire, 48 heures après. Il est aussi indiqué que j'ai 24 heures pour le rappeler sur son portable si j'ai un motif sérieux pour déplacer le rendez-vous. Dans la lettre de convocation, la CAF me demande de présenter un tas de documents que la CAF... Il est important de préciser que la CAF a déjà la plupart de ses papiers. Donc voilà, donc il y a à chaque fois plusieurs documents qui sont demandés. Donc le jour du rendez-vous, nous sommes une dizaine dans la maison. Nous l'installons à une table dans le salon. Certains s'asseyent à la table, d'autres un peu plus loin sur un canapé. Avant même que s'estompe son premier sentiment de surprise et de gêne, nous lui posons toute une série de questions sur les objectifs réels de ses contrôles, sur la forme surprise de la convocation, mais aussi sur ce qu'il fait des informations récoltées. Bref, il comprend bien que nous sommes là aussi pour contrôler ce qu'il fait. s'ensuit une longue discussion sur le fonctionnement de la CAF et le contexte social et politique dans lequel s'inscrivent ces contrôles domiciliaires. Le contrôleur est alors obligé de chercher, une fois n'est pas coutume, à se justifier. Et il nous répète tellement qu'il est là avant tout pour aider les gens à s'orienter dans le dédale administratif que deux parmi nous lui soumettent un problème de blocage dans le traitement de leur demande d'allocation logement. Au final, il nous promet d'accélérer les choses, nous donne son numéro de portable et ne prend finalement que quelques minutes pour vérifier mon numéro de sécu, qui était selon lui le seul objet de son passage à domicile. À force d'insistance, il finit également par lâcher que c'est parce que je suis italien qu'il est là et que ce type de contrôle est fréquent pour les étrangers communautaires. Et du coup, voilà, et donc ce que dit la brochure, c'est qu'il faut, si on peut être plusieurs pour ces contrôles à domicile, voilà, pour imposer un rapport de force aussi avec le contrôleur et pas le laisser se balader partout dans la maison et sentir ultra à l'aise et vraiment le mettre dans une pièce avec plusieurs personnes et après... demander pourquoi il veut aller dans tel endroit faire telle chose pour un peu instaurer un rapport
genre le contrôleur il s'y attend pas, du coup tu le contrôleur veut te contrôler, tu intimides le contrôleur en retour, tu ne le laisses pas faire quoi.
Ouais
du coup ça c'est dans la brochure donc des cafards 93 du coup qui est un collectif qui n'existe plus mais il y a toujours les archives sur internet et c'est une brochure voilà qui explique comment se défendre et trouver des combines et du soutien dans le cadre de contrôle domiciliaire de la CAF.
Juste pour donner un peu une idée de l'ampleur de ces contrôles, un peu en chiffres. En 2019, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans un rapport de la commission d'enquête sur la lutte contre les fraudes à l'Assemblée nationale. Bref, ils disent qu'en 2019, il comptabilisait 33 millions d'opérations de contrôle en tout. Alors, je ne sais plus si c'est juste la CAF, mais je crois que c'est juste la CAF. Et sur ces 33 millions, il y a 70 000 contrôles au domicile. Du coup, c'est pour donner un ordre d'idée, mais on y reviendra après, quoi. Que j'ai l'impression que le plus gros des opérations de contrôle, c'est quand même un peu ce que tu as abordé avant... Henri, sur ce qu'ils appellent le data mining, où ils vont fouiller dans tous les fichiers auxquels ils ont accès pour aller chercher des incohérences. Et après, soit ils te suspendent, soit ensuite ils engagent un contrôle plus poussé au domicile. Et effectivement, après, j'imagine, avec un truc de ciblage, genre typiquement les étrangers ou les mères isolées. Mais voilà, et puis donc, du coup, c'est genre 29 millions de contrôles, c'était des contrôles comme ça automatisés. Et après, c'est aussi, sur les 33 millions, c'est 5 millions de contrôles, c'est des vérifications de pièces, justificatives. Quoi. Bref, c'était juste pour donner des chiffres.
Ça me fait penser à un truc que j'avais envie d'ajouter sur la question des mères célibataires. La question en gros c'est toujours de ces contrôles là ils visent à chercher si la personne vit en couple ou pas et donc du coup est-ce qu'il y aurait d'autres revenus qui arriveraient dans le foyer mais qui seraient pas déclarés à la CAF pour toucher plus d'aide et du coup voilà ça donne des contrôles un peu où ils viennent chez toi, ils regardent le nombre de brosses à dents que t'as, ils regardent un peu qui, ils essayent de comprendre qui vit là et etc. pour essayer de détecter une sorte de fraude et voilà et c'est toujours des contrôles dont on peut se défendre en disant autre chose, en ne répondant pas aux questions, etc. Quoi. C'est toujours un peu les mêmes logiques.
Et puis, un des gros des contrôles, je ne sais pas si c'est le contrôle de la résidence, quoi, où simplement ils contrôlent que tu es bien, que tu habites bien là, ils contrôlent ton adresse, quoi. Ils le font aussi avec les fichiers, mais j'ai l'impression qu'ils le font. Du coup, ça, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de techniques pour. Pour parer à ce genre de contrôle. Tu disais la brosse à dents, mais je sais pas. En plus, comme ils sont contraints de te prévenir à l'avance,
oui, t'as le temps de t'organiser. Quoi. Avant de refaire une petite pause musicale, j'avais envie de parler vite fait de la garantie jeune. Dont on va pas trop parler ce soir vraiment en détail, mais c'est un dispositif qui est un sorte de RSA avec d'autres conditions et un autre fonctionnement pour les moins de 25 ans. Donc pour la plupart des moins de 25 ans, le RSA n'est pas accessible, à part sous certaines conditions qui sont un peu compliquées. Mais en gros, quand tu as moins de 25 ans et que tu es au chômage ou que tu sollicites des aides de la part de l'État, on te réoriente vers la mission locale. Et là, la mission locale, il y a possibilité de s'inscrire en gros à la garantie jeune. Et c'est un dispositif avec lequel tu peux bénéficier d'une certaine allocation pendant un an. Et en fait, j'ai une copine qui a participé et qui m'a un peu raconté comment ça fonctionne. Donc en gros, les trois premières semaines de ton inscription, tu dois participer à une sorte de stage de team building, genre un peu horrible, où à la fois tu fais des sortes de débats de société, tu dois te mettre en groupe avec les gens avec qui t'es, dessiner un blason, genre on te fait vraiment de l'animation comme si t'étais au centre aéré. Et voilà, on te fait visiter une entreprise, etc. Donc ça dure quand même pendant 3 semaines, 3 à 4 fois par semaine. Donc je veux dire, enfin, à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas d'autres trucs à faire ? Si. Suite à ça, tu dois faire un stage en entreprise. Donc voilà, encore une fois, là, il y a des combines pour faire des fausses conventions de stage avec des gens qu'on connaît, qui ont des associations, etc. Ne pas se retrouver à faire un stage claqué au sol. Mais voilà, ça, la garantie jeune, c'est un autre exemple de dispositifs où on va donner des thunes à des gens qui vont... on va essayer d'avoir un peu des thunes de l'État, mais en même temps, en face, il y a des demandes et des contraintes qui vont être imposées, un peu comme c'est le cas, en fait, à Pôle emploi, quoi. On s'écoute Plaisance de Billy Breloc.
T'es venu t'éclater comme une vague sur tes Havaianas. T'étais grillé en flag, paraît que tu cherchais Montana. Quel gros cartel de schlag, toi et ton bandana. Comme lui, je parie que t'es plus qu'une blague dans tout la Havana. T'as la confiance augmentée, tu fais ton choix dans la vitrine. Tu dis qu'elles sont toutes caliente, du Mexique à l'Argentine. Joue pas ta santé. Que me miras pendejo, anda tocarte lejo, es mi último consejo. Tu veux ta taupe d'autochtone, t'en veux 10, t'en flash 30. Mais tu t'éloignes trop de l'hôtel et t'as la goutte sur la tente. Non merci pour la discute, tu cherches la détente. Tu les as vu les temples et piqué choix, tu sais bien que c'est qu'une tente. Tu veux la totale supergola, pervertir à coups de dollars. Comme ils ont pris la hoja de coca, la noix de cola. Toi t'es là pour la playa, la fiesta, le tequila. C'est la loi de la tombola, bon baiser de mon pugilat. Couleur intercostale, laisse-moi te froisser le décor. Je baisse ta carte postale et tous ces faux raccords. Des naturants, des figurants, tandis que des heures durant. Toi tu cherches le fulgurant dans ce monde de figurants. C'est ton Paris la garde, plaisance en frégate. Le rêve en plein cauchemar sous le trône de ton transat. Toi tu veux le fulgurant dans ce monde de figurants.
Toi tu veux le fulgurant dans ce monde de figurants.
Loin de la côte, Andaman, lait de coco à colipé. Speedboat, on se pavane, pied dans l'eau équipe. On remonte, on ressaute, la locale est épicée. Je gratte la causette au pilote et d'un coup l'ambiance s'arripait. Il m'explique qu'il fait son bif, qu'il faut bien nourrir la mif. Mais que pousse à farang, c'est pas son rêve d'enfant. Ça sent le relan, ça pue la rediff. Lui c'est juste, faut qu'il s'arrange, il s'est fait douiller tellement salement. Le savoir-faire de pêcheur de ses pères, hérité en ossature. On lui fait courber les chines et on est vu casser la chaîne. On lui a volé sa mère et puis cette température. C'est bien la preuve que l'ossature et que même les coraux comprennent. C'est déjà que ça durera pas et après ça il fera quoi, il sait pas, il verra bien ce qu'on lui dira. C'est à peine s'il arrive à rire, parce que touche arrive à rire. Comme tout boucle brotari, c'est manu militari. Tout leur intercostal, laisse-moi te froisser le décor. Je teste ta carte postale et tous ces faux raccords. Des naturants, des figurants, tandis que des heures durant. Toi tu cherches le fulgurant dans ce monde de figurants. C'est ton Paris la garde, plaisance en frégate. Le rêve en plein cauchemar sous le trône de ton transat. Toi tu veux le fulgurant dans ce monde de figurants.
Toi tu veux le fulgurant dans ce monde.
C'est à l'est les Indes, à l'ouest les Indiens. Qu'est-ce que ce monde est simple, je vais pas te faire un dessin. Le ciel peut s'effondrer mille fois, toi tu repars patelas. Sans ton selfie favela, ton chapeau de paille et ton vuvuzela. Ta boule à neige et ta sucette à l'insecte. Puis ce gosse tellement mignon, t'aimerais la voir en porte-clé. Je t'entends déjà raconter tes légendes suspectes. Maracas, coup de djembé sur fond de reggae de béquet. tu commandes tes vacances comme chez Pizza Pino. Ça finira en magnette, aimanté sur le frigo. Tu t'es fait tatouer sur la fesse les quatre points cardinaux. Je te revois danser, danser tout l'été sur Clandestino. T'es plein de refrains certains, t'as ton petit standing au teint. Qui dit non, Casa c'est bien, mais ce serait mieux sans les Marocains. Ici personne te connaît, tu te permets, tu fais nimp. Tu demandes même si pour un billet, là qui te ferait timpe. Tout leur intercostal, laisse-moi te froisser le décor. Je baisse ta carte postale et tous ces faux raccords. Je dénature les figurants, tandis que des heures durant, toi tu cherches le fulgurant dans ce monde de figurants. C'est ton pari, la carte, plaisance en frégate. Le rêve en plein cauchemar sous le trône de ton transat. Tu veux le fulgurant dans ce monde de figurants. Tu veux le fulgurant dans ce monde de figurants. Dans le reflet de la vie de l'autocar, j'aperçois ton regard. Mais dis-moi, toi, est-ce qu'on s'est pas déjà croisé devant le miroir? C'est à l'est les Indes, à l'ouest les Indiens. Qu'est-ce que ce monde est simple, je vais pas te faire un dessin.
Coucou, c'est Carapatage, on est toujours là pour la deuxième partie de notre émission. On vient d'écouter Billy Breloque, Plaisance. C'est Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Notre adresse postale, c'est le 4 Villa Stendhal, 75 020, Paris. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez la passer aux personnes qui sont à l'intérieur, qui peuvent nous écrire des lettres. Et n'hésitez pas à nous appeler pendant les musiques au 01 43 71 89 40. Justement, on a une copine qui vient de nous appeler pendant la pause musicale pour donner un exemple de flicage intense de la garantie jeune. Donc, par exemple, pour prouver... qu'on est bien en train de chercher du taf à la garantie jeune, ils demandent aux personnes inscrites de prendre des selfies de eux ou elles en train de déposer genre des demandes à des employeurs, enfin genre des candidatures quoi. Petit selfie, bam bam avec l'employeur, bam bam. Bref, des méthodes somme toute questionnables. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est déposer des CV, donner des preuves que tu déposes des CV, faire des contrats avec des associations, des entreprises, etc. Donc, ça peut être potentiellement, t'as de l'argent, mais en face, et selon les départements, c'est différent, selon les missions locales, c'est différent. En face, on te demande beaucoup d'action et d'engagement avec la visée de t'insérer dans le monde du travail, quoi. Voilà pour le petit passage sur la garantie jeune. Pour la suite de cette émission, Pitou va un peu nous expliquer justement comment ces institutions, elles collaborent entre elles pour nous fliquer. Et voilà, du coup, comment tout ça se goupille.
Ouais. Ouais, ça risque d'être un peu lourd parce que c'est vraiment un...
Si on s'endort, on te dit...
carrément. Non, mais... Non mais déjà je vais revenir sur un peu comment toutes ces institutions elles collaborent entre elles pour nous fliquer, ouais, comme tu as dit. Et tu l'as déjà dit un peu avant, mais du coup ouais, que ce soit la CAF, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, Pôle emploi, du coup ils communiquent entre elles pour toutes les infos, documents nécessaires à l'attribution des droits pour les prestations, mais aussi pour le contrôle ensuite. T'as dit aussi tout à l'heure par rapport à tout ce que la CAF pouvait exiger. En fait, ça s'appelle, dans le droit, ça s'appelle, je sais pas si c'est utile de le lire, ça s'appelle le droit de communication. Et du coup, par exemple, la CAF, ils ont ce droit-là de communication, à savoir d'exiger. Donc, par exemple, ils te demandent ton relevé bancaire ou un bulletin de salaire, toi, tu leur donnes pas. Après, ils ont le droit d'exiger de ta banque ou de ton employeur de te filer ces pièces, quoi. Et pareil pour les factures d'énergie, tu l'as dit tout à l'heure. Ils disent que c'est utilisé en dernier recours et que normalement le bénéficiaire doit être prévenu avant. Ça, c'est le petit côté on respecte vos droits, vos libertés. D'ailleurs, dans l'article de loi, ce droit de communication, il est très large, quoi. Je sais pas, moi, où il s'arrête. Mais la loi dit que tous les documents et informations nécessaires pour contrôler l'exactitude des déclarations ou l'authenticité des pièces produites peut être exigée donc aux banques, aux employeurs et tout quoi.
Enfin, ils font des petites enquêtes de flics quoi.
Ouais,
mais alors,
ouais.
Alors image, alors avec les infos dont ils ont besoin. Quoi.
Et d'ailleurs, en parlant d'enquête de flics, enfin, je vais revenir après, mais Pôle emploi, à Pôle emploi, il y a des agents habilités pour utiliser des prérogatives de police judiciaire pour enquêter sur de potentielles fraudes, quoi. Du coup, par exemple, ils peuvent faire des auditions libres de suspects, ils peuvent mettre en œuvre des alternatives aux poursuites eux-mêmes. Enfin, ils ont des trucs qu'ils peuvent faire de leur propre chef. Enfin, c'est vraiment des prérogatives de police judiciaire. Et ils peuvent délivrer eux-mêmes des convocations en justice sur instruction du parquet, quoi. Mais ils le font eux-mêmes pas par le biais d'un... Si je comprends bien, pas par le biais d'un agent de police judiciaire. Enfin, pas par les flics, quoi. Bref, mais je vais revenir au fichier, enfin au truc chiant là. Mais il n'empêche que c'est un... Enfin, il y a un espèce de... Je sais pas, moi j'étais halluciné de...
De tout ce à quoi ils ont accès.
Et puis tout ce qui existe, quoi. Enfin, ouais. En termes de fichage, c'est assez dingue. Bon, il y a des trucs qu'on connaît déjà, enfin qui sont connus, quoi. J'ai l'impression, typiquement, le fait que... Ils aient accès, que la CAF, par exemple, ils aient accès aux déclarations de ressources à la Direction Générale des Finances Publiques, parce qu'ils précisent bien qu'à chaque fois, voilà, qu'ils vérifient tes revenus, ce que tu déclares avec ça. Et donc ça fait depuis 2002 ouais, qu'ils ont accès à ça. Mais aussi, par ailleurs, bon, je ne vais pas tout citer tous les fichiers, mais genre, tous les organismes sociaux, ils ont accès à plein d'autres bases de données. Alors, ils ont accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés, qui s'appelle FICOBA. Du coup, ça veut dire que même sans aller demander à la banque pour consulter ton compte, ils peuvent au moins avoir accès à ce fichier qui recense la totalité des comptes bancaires ouverts sur le territoire français. Du coup, pour avoir les informations générales, quoi, sur qui détient ce compte. Enfin, du coup, ils peuvent savoir quel compte tu détiens un peu. Et toutes les informations qui sont liées à ce compte, quoi. Sinon, ils ont accès à plein de fichiers de bases de données patrimoniales. Je ne vais pas tout citer, mais bon... de toute façon, je ne les connais pas. Ça ne me concerne pas trop, personnellement. Mais du coup, des trucs... des fichiers des assurances-vie, base nationale des données patrimoniales. Bon.
Oui, ça, en fait, c'est des infos qui leur servent à savoir... Si tu demanderais des aides alors qu'en fait tu as du patrimoine et tu as des thunes, et donc du coup, encore une fois, pour essayer de détecter la fraude ou des aides qui seraient demandées alors que tu n'as pas le droit, quoi.
Voilà, c'est ça. Après, bon, ils ont aussi accès à tout l'état civil et notamment à l'ensemble du système, ce qu'ils appellent le SNGI, Système National de Gestion des Identifiants, donc qui recense les numéros de sécurité sociale, l'état civil, l'enregistrement d'un décès, les données de filiation, la nationalité pour les ressortissants de la communauté européenne. Pour les étrangers aussi, depuis 2012, ils ont accès au fichier ACDREF, qui est l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Du coup, là, c'est un peu pour revenir... pour vérifier la cohérence de dossiers de demande de prestations sociales avec des déclarations faites à la demande d'un titre de séjour, quoi. Et puis, pour aller un peu plus dans le détail de comment ils collaborent et comment les différents organismes travaillent entre eux pour fliquer. En fait, depuis 2019, pardon. Et la mise en place donc du prélèvement à la source. Les agents, tous, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a des agents habilités de tous ces organismes de protection sociale qui peuvent accéder à des bases de données qui sont alimentées donc tous les mois par les déclarations des employeurs du fait du prélèvement à la source, quoi. Et ça s'appelle le dispositif ressources mensuelles. Et du coup, dedans, il y a à la fois donc toutes les déclarations des employeurs sur les revenus de leurs employés, que ce soit des employeurs privés ou publics. Mais il y a aussi une base de données avec tous les autres types de revenus, dont toutes les autres aides sociales, quoi. Mais aussi les pensions de retraite, voilà. Et donc, par exemple, depuis 2019, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que le calcul des APL, il est effectué désormais à partir de ces données, quoi. C'est-à-dire, il est automatisé à partir de ces données mensuelles plutôt que...
Sur déclaration.
Sur déclaration, oui. Et je ne sais pas, bon, dans, enfin, c'est des décisions politiques, enfin des comment dire, des perspectives politiciennes, notamment, enfin sur, je sais pas, conseil de la Cour des comptes et de la direction de la sécurité sociale, qui veulent à terme que le calcul de l'ensemble des prestations sociales soit automatisé. À partir de toutes ces données mensuelles et non plus des déclarations de revenus annuelles, enfin de nos déclarations de revenus et des données annuelles des impôts, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc ils disent notamment, ils aimeraient bien automatiser ça pour le RSA, la prime d'activité, toujours avec le petit discours de non mais c'est pour être sûr que tout le monde aura bien, pourra bien bénéficier du RSA, enfin y a, tu vois bien que,
oui,
comment ils justifient,
oui,
c'est
tout ça. Ces... Genre il y a des gens qui font pas les, ils n'ont pas accès alors qu'ils auraient le droit, enfin.
Ouais, ouais.
Et ça aussi, à long terme, c'est dans une perspective de... On n'en a pas trop parlé quand on a préparé l'émission, mais de... que ce soit une seule allocation généralisée qui est distribuée aux gens avec... Enfin, qu'en gros, allocation adulte handicapé, APL, RSA, etc., tout ça soit généralisé en un seul revenu. Et qui soient distribués aux gens en fait, selon leur situation, et qu'en fait, il y a une sorte de généralisation, des, voilà, un fonctionnement commun entre les différentes institutions, et donc du coup plus de recoupement des données et plus de contrôle, quoi.
Bah, en tout cas, moi, dans les espèces de rapports de bureaucrates de la sécurité sociale que j'ai
mais
un peu fouillé...
Mais t'as des lectures fascinantes.
Ah non, arrête, c'est pas fascinant, c'est déprimant, wesh. Plutôt, ils parlent pas trop de ça, mais évidemment, ils parlent de centralisation. Donc, sans parler d'une fusion des allocs, ils parlent bien de, voilà, depuis, mais déjà depuis longtemps, de volonté de centralisation, machin, de fluidité... alléger les millefeuilles administratifs, les blabla bureaucrates. Et la mesure un peu phare, ça s'appelle le répertoire national commun de la protection sociale. Et du coup, c'est l'espèce de... Enfin, un truc qui est déployé depuis 2012 et dont l'idée, comme son nom l'indique, c'est de permettre aux différents organismes de protection sociale, à partir du numéro d'inscription au répertoire, enfin ce qui est le numéro de sécu sociale, d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa protection sociale, du coup l'ensemble des prestations perçues, du montant des prestations, et puis toutes les différentes caisses, régimes d'affiliation, enfin bref, et du coup l'idée c'est de tout centraliser dans ce répertoire, faciliter les échanges du coup entre les organismes, encore plus les automatiser, du coup en particulier entre Pôle emploi et la CAF. Et puis, avoir un vrai outil de lutte contre les erreurs et les fraudes. Voilà, surtout pour le non-cumul de prestations, mieux vérifier les lieux de résidence et la régularité de la résidence. Tout ça grâce aux nouveaux outils de data mining, deep learning, et tout, enfin tous les...
Des algorithmes, voilà, des logiciels, etc., qui permettent de croiser ces données... Enfin, comme ce dont je parlais tout à l'heure pour l'algorithme de contrôle de la CAF, quoi.
Voilà, mais du coup, à partir de ce seul répertoire commun, machin.
Ok. J'ai vu Pile qui nous a fait un signe depuis la technique. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, elle voulait rien ajouter.
Et donc ça, c'était plutôt pour parler de la coopération des organismes sociaux entre eux, mais ils coopèrent aussi vachement avec les flics et la justice, et justement, ce fameux répertoire commun. Y ont déjà accès des agents ou officiers de police judiciaire dans le cadre, enfin c'est, j'ai pas trouvé plus de détails, mais j'imagine quand il y a une enquête, ils peuvent accéder à ce répertoire, ou alors pour signaler des fraudes justement à ces mêmes organismes sociaux, eux font des enquêtes et puis font ressortir des choses. Mais d'ailleurs à ce sujet, il y a aussi un truc qui s'appelle TRACFIN, je sais pas comment, enfin c'est un TRACFIN, c'est un service de renseignement spécifique placé sous l'autorité du ministère de l'économie et qui, en fait, produit des notes de renseignement et les communiquent aux organismes de protection sociale et aux autorités judiciaires. Du coup, c'est une espèce de service de renseignement spécifique à la fraude. Enfin, pas spécifique à la fraude aux prestations sociales, mais à la fraude de manière générale.
De manière générale.
Du coup, la fraude fiscale et toutes les autres fraudes possibles, imaginables. Mais, entre autres, à la fraude aux prestations sociales. Et donc, fouillent ces fichiers. Enfin, c'est leur taf, quoi. Et produisent des notes de renseignement. Enfin, en fait, j'ai l'impression que d'abord, la CAF ou les Pôle emploi leur font des espaces de déclaration de soupçons, c'est comme ça qu'ils disent.
De profil, en gros, à surveiller, quoi.
Voilà, et à partir de ça, eux, ils font une recherche, une enquête plus poussée. Ils produisent des notes de renseignement plus précises. J'ai l'impression vachement plus sur des trucs d'escroquerie en bande organisée,
des trucs assez lourds.
Parce que quand on voit les chiffres, par exemple, en 2021, ils ont produit 27 notes sur les fraudes aux prestations sociales, donc 15 pour Pôle emploi, 7 à la CAF. Du coup, ça a l'air d'être on parle pas des fausses déclarations, genre de usage de faux, enfin, genre de.
Des gros trucs, quoi.
Le truc avec des lourdes conséquences judiciaires derrière. un autre truc qui illustre comment les organismes de protection sociale collaborent avec les CUF, c'est ce qu'ils ont mis en place à partir de 2007, qui s'appelle, alors désolé, ça fait un autre acronyme, les comités opérationnels départementaux antifraude, les CODAF. Et en gros, dans ces comités, la police, la gendarmerie, les préfets, la douane et Pôle emploi, tous les organismes de protection sociale, l'URSSAF, la CAF. Voilà, et en gros, c'est un truc institutionnel qui s'échange plus d'informations. J'ai l'impression que les flics signalent des potentiels fraudeurs au Pôle emploi et la CAF. Un autre chiffre que j'avais vu, c'était en 2020. Il y avait genre 11% de dossiers qualifiés de fraude par la CAF, qui l'ont été grâce à des signalements de partenaires. Du coup, je me suis imaginé que partenaires, c'était les flics et dans le cadre de ces fameux CODAF. Quoi. Mais peut-être à vérifier. Hein.
Ça peut être toutes les autres institutions, à la fois les flics, à la fois... Là, tu as dit c'est la CAF, c'est ça? Donc ça peut être aussi Pôle emploi, ça peut être des bailleurs sociaux... Ça peut être plein de gens, quoi. Ouais, tu voulais dire un truc, Pile ?
Ouais, des fois, ils encouragent aussi, par exemple, les sages-femmes qui travaillent pour le conseil général, par exemple, pour le conseil départemental, à signaler s'ils verraient des choses qui leur sembleraient... de signaler des situations qui pourraient sembler des fraudes à la CAF, par exemple. Et bon, après, elles sont incitées à le faire, pas obligées, mais voilà.
Ouais, il y a...
C'est peut-être des partenaires aussi.
Ouais, il y a... En gros, toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin pour des institutions, pour l'État, etc., sont incitées à vérifier que les gens ne touchent pas des allocs, alors qu'ils le méritent pas, quoi. C'est genre, c'est une mission que l'État et ses fonctionnaires se donnent, quoi.
Et tout ce contrôle, ça donne lieu à des sanctions. Disons que dans plein de cas, ça donne lieu à des pénalités financières, des suspensions d'alloc, quoi. Mais aussi à des pénalités, des sanctions administratives que peuvent exécuter de leur propre chef, la CAF, Pôle emploi et les autres, quoi. C'est quand même le plus gros des sanctions, quoi. Mais, et si des gens se demandent encore pourquoi on a choisi ce sujet dans cette émission, y a un lien direct.
On va parler de la prison. Attention,
c'est
maintenant.
On va parler de la prison.
Il est 21h46, ça fait 1h45 qu'on est là. Non, 1h30.
Ouais, non, parce qu'effectivement, en fraudant la CAF et Pôle emploi, on s'expose à des risques de prison. Et plus précisément... parce que d'abord, il faut préciser qu'il y a un code qui s'appelle le code de la sécurité sociale et qui définit des seuils de préjudice financier au-delà desquels les organismes de protection sociale ont carrément l'obligation de porter plainte et se constituer partie civile. Et en 2020, ces seuils, pour donner une idée, pour la CAF et l'assurance maladie, c'est 27 000 euros à peu près. Donc si tu fraudes plus que 27 000 euros, ils sont obligés de porter plainte. L'assurance vieillesse, c'est 13 000 euros. Et pour le Pôle emploi, il n'y a pas de seuil. Alors ils disent, je ne sais plus, dans un rapport de commission de l'Assemblée nationale, qu'en pratique, les parquets demandent souvent aux caisses de ne les saisir qu'à partir des seuils encore plus élevés.
Okay.
Pour, alors je ne sais pas pour quelle raison.
Pour limiter les affaires, quoi.
J'imagine. Mais bon, voilà, quoi. Il y a cette obligation. Et puis, de fait, bah, en dessous de ces seuils, ils peuvent toujours porter plainte, quoi, même s'ils n'ont pas l'obligation, quoi. Le code pénal, il prévoit plusieurs peines spécifiques à la fraude aux prestations sociales. Donc, d'abord, il y a, pour ce qu'ils considèrent comme une déclaration fausse ou incomplète, ça peut être puni jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ensuite, ce qui est aussi beaucoup utilisé, c'est l'escroquerie, le délit d'escroquerie. Donc, c'est-à-dire l'usage, par exemple, un faux nom ou une fausse qualité, quoi. Ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, je ne sais pas trop ce que ça signifie en droit. En gros, ça, quand c'est une escroquerie qui est réalisée au préjudice d'un organisme de protection sociale, ça peut être puni jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Et donc, encore une fois, selon je ne sais plus quel rapport, ils disent que c'est 95% des condamnations pénales en matière de fraude aux prestations sociales. Après, il y a des infractions plus lourdes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'escroquerie en bande organisée, enfin quand c'est caractérisé en bande organisée, ou le faux, donc ça, pardon, la bande organisée, c'est plus de 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Le faux, l'usage de faux, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Dans les faits, en 2020, il y a eu près de 1400, à peu près 1400 poursuites pénales engagées par la CAF et près de 180 par Pôle emploi. La plupart du temps, la plupart du temps, c'est du sursis. Par exemple, en 2018, il y a eu 555 condamnations pour déclaration fausse ou incomplète pour l'obtention d'une alloc. Et dans toutes ces condamnations, il y a eu 24 condamnations à de la prison ferme et 264 à du sursis total. Voilà, ça c'était pour la CAF, je crois. Ah non, c'est pour l'ensemble des organismes sociaux. Il y a aussi eu la même année, on comptait 178 condamnations pour escroquerie. Et parmi ces 178, 40 condamnations à de la prison ferme. Bon, bref, je veux pas dire plus de chiffres parce qu'on va s'y perdre sinon. Et je voulais rajouter un petit truc. Je voulais aussi parler du fait des fraudes de détenus, puisque quand on est incarcéré.
On n'a plus le droit à ces aides.
Pas tout à fait, mais presque quand même. Enfin, on n'a plus le droit au RSA, par exemple. Quand on est seul, quand on vit seul, le RSA est coupé à compter du mois suivant le 60e jour d'incarcération. C'est un peu. Bref, en tout cas, le RSA est coupé, quoi. Quand on est en couple, avec ou sans enfant, c'est pareil, le droit est interrompu et le droit du conjoint est étudié. En ce qui concerne l'AAH, qui est l'allocation adulte handicapé, quand on vit seul et qu'on est incarcéré, on ne touche plus que 30% du taux plein. En couple, a priori, il n'y a pas de réduction. Et voilà. Et bon, en ce qui concerne les APL, si tu gardes ton logement dehors, ton droit est maintenu un an, mais au bout d'un an, t'as plus d'APL. Quoi.
Et du coup, ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a des prisonniers qui prennent des peines parce qu'ils continuent à toucher leurs aides quand ils sont en taule, et donc du coup, c'est considéré comme de la fraude, quoi.
Ouais.
Ils déclarent pas le fait qu'ils sont en taule, et donc du coup. Il y a quelques cas de prisonniers dont la peine est rallongée parce qu'ils ont fraudé les allocs, quoi.
Ouais, c'est ça. J'ai trouvé quelques exemples, mais par exemple en 2015, il y a quelqu'un qui a été condamné à 6 mois de prison ferme. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de préciser avant, c'est que en cas de fraude de la CAF, par exemple, par un détenu, En l'occurrence, peu importe le montant fraudé, la CAF dépose systématiquement plainte. Du coup, ça donne systématiquement lieu à des poursuites pénales. Quoi. Et donc, ouais, pour revenir à l'exemple, en 2015, il y a quelqu'un qui avait été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir perçu le RSA en tôle. Et puis, plus récemment, c'est à la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Nord, là. Où il y a quelqu'un qui a quand même réussi à toucher le RSA pendant 7 ans,
mais
franchement.
Bravo, enfin, belle performance.
Ouais, grosse perf. Et bah, malheureusement, c'est une conseillère Pôle emploi qui
s'en est rendu compte.
Est venue à la tôle, a fouillé dans ses dossiers, et puis bah, l'a balancé, quoi. Et en plus de ça, bah, il s'est vénère. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bref, il a sûrement été, c'était en 2021, ça a sûrement, je ne sais pas si ça a donné lieu à un procès. En tout cas, il était poursuivi pour, à la fois pour, enfin en tout cas en partie pour avoir fraudé. Et je ne sais pas à quoi ça a donné lieu. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu une peine depuis, mais voilà quoi.
Il y a aussi, là on est parti direct sur les peines de prison, les amendes, etc. Concernant Pôle emploi, la sanction la plus courante en fait, c'est de se faire radier, c'est-à-dire Pôle emploi décide que t'as pas fait suffisamment d'efforts pour trouver taf, là dernièrement dans les articles que moi j'ai lus, il faut donner des preuves que tu cherches du taf, et donc du coup si c'est pas sur l'espace et comment eux l'ont décidé, en envoyant des mails, en ayant des preuves de mails, si par exemple tu l'as fait par courrier, ils décident que non et donc du coup ils peuvent te radier, enfin voilà, en gros Pôle emploi ils ont le droit de décider si t'auras des thunes le mois d'après ou pas, ce qui est quand même un peu un truc important et voilà, un gros truc pour la vie des gens quoi, et voilà, c'est les conseillers Pôle emploi sont un peu voilà, ils décident, ils ont un droit de sanction sur toi si tu touches tes allocs ou pas, et à quelles conditions quoi.
Oui, surtout qu'ils peuvent te radier et te couper les allocs sans que tu aies le temps de faire un recours quoi.
Oui, c'est
et
ça. Du coup, après t'as rien,
tu peux faire un recours mais ça met du temps et c'est du coup, ça. Tu restes sans rien, sans aucun.
Et comme pour la CAF, comme je disais tout à l'heure, ben eux, enfin le rapport il est pas sur le même pied d'égalité quoi, genre c'est difficile de les contacter, c'est difficile de faire des recours, ils prennent le temps qu'ils veulent pour te répondre, la CAF tu leur envoies un courrier, même y compris sur l'espace en ligne là, ils mettent 1 mois, 2 mois à te répondre sans problème quoi, pendant ce temps-là t'as aucune aide etc, enfin c'est des institutions qui ont beaucoup plus de pouvoir sur les individus. Quand les individus restent tout seuls, quand les personnes restent toutes seules, par contre, quand elles se mettent en groupe, là, elles peuvent se défendre. Et c'est de ça dont on va parler. Merci, bam, 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 drop the mic. C'est ça dont on va parler après avoir écouté American Pie de Sheer Diamond.
I don't like antiques, I want something new. The world don't like no freaks coming in their rooms. But this beggar's got a right to choose. I'm not a stranger, I'm just like you. I need love, I don't need money. After all these years, baby, I'm still running. Who's gonna say my want is not a need? It looks that get so dirty. After all these years, baby, it's still hurting. Who's gonna say my won't is not a need? Just want my piece of the American pie. Got your slice, where is mine? Lick my fingers on this thing called life. Just a piece of the American pie. The chains of old beliefs. I'm the flame that you can't unsee. I don't like antiques, I want something new. I got my dignity, gonna live my truth. Like the southern smile, I just can't lose. Let my light sweep across the room. You may laugh, but it's not funny. That's the thing that keeps me coming. Who's gonna say my woe is not a need? All those looks that get so dirty.
everything, still learning. Who's gonna say my won't? There's not a need. Just want my piece of the American pie. You got your slice, where is mine? Lick my fingers on the sink all night. Just a piece of the American pie. Break the chains of overleaf. I'm the flame.
On est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Là, on a pris notre temps dans cette émission, on est un peu en retard. D'habitude, on essaye de finir vers 22h, mais là, on va prendre 5-10 minutes de plus. Donc, Carapatage, vous pouvez aller consulter notre site internet, carapatage.noblogs.org, nous envoyer des messages sur Insta et nous écrire des lettres. C'est le 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. Il y a une personne qui s'amuse à nous appeler pour nous ennuyer en numéro inconnu et nous dire des trucs désagréables au téléphone. C'est pas la peine. Genre, en inconnu, on ne décroche pas. Là, on est tranquille, on est en train de faire notre émission. C'est pas la peine de nous gâcher la vie. Donc, arrête de nous appeler, s'il te plaît. Pour la fin de cette émission, on voulait parler un peu de comment échanger quelques combines, quelles sont les ressources qu'on avait à partager sur ça et comment retrouver de la joie par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, parfois, être au chômage ou au RSA, c'est une mauvaise nouvelle ou une énorme galère. Et parfois, c'est une occasion d'échapper à l'obligation de travailler pour un temps et faire un peu ce qu'on a envie de sa vie et de son temps. Parfois, c'est un peu les deux. Et donc, dans tous les cas, ce qu'on disait juste avant la musique, c'est que l'important, c'est de ne pas rester seul et de s'entourer de personnes avec qui on peut échanger et voilà, échanger des infos, échanger des combines sur comment faire. On va parler de quatre trucs vis-à-vis de ça. La première, c'est le bureau de désertion de l'emploi, manuel non exhaustif de débrouille individuelle et collective contre la société capitaliste, qui est sorti en 2022. Et en fait, c'est une longue brochure qui explique un peu comment fonctionnent les différentes institutions, dans laquelle on a pioché des trucs pour préparer l'émission de ce soir, voilà, des différentes techniques de débrouille, etc., qu'on peut trouver sur InfoKiosque et dont on mettra le lien ainsi que toutes les références dont on a parlé ce soir sur notre blog. Voilà, donc la brochure du bureau de désertion de l'emploi qui est sortie là récemment. Donc les infos sont assez actuelles et c'est aussi ça qui est cool. Avec voilà, des analyses de qu'est-ce que le travail, pourquoi on travaille, pourquoi on est forcé à travailler, pourquoi le travail c'est de la merde, etc. Donc c'est une assez cool lecture. La deuxième initiative qui est en fait un collectif, on en a déjà parlé plus tôt dans l'émission, c'est Stop Control. Qui organise une riposte collective contre Pôle emploi et la CAF, et donc particulièrement leur contrôle. Il y a déjà eu deux AG en février et en mars 2022 à la Bourse du Travail de Paris. Et en gros, voilà, c'est un collectif qui s'organise pour faire des recours en cas de radiation abusive et qui, voilà, qui propose une organisation collective. Il y a un contact, c'est stop.contrôle@protonmail.com et un numéro de téléphone 06 09 66 56 20. Mais on vous mettra toutes les infos nécessaires sur le blog. Et donc, du coup, c'est voilà, une initiative dans laquelle il y a plusieurs organisations syndicales, la Quadrature du Net et voilà, plusieurs organisations pour faire un collectif de lutte contre les contrôles abusifs de Pôle emploi et de la CAF.
Oui, moi, dans les collectifs qui ont existé, je vous parlais un peu de, enfin, rapidement des cafards de Montreuil. J'en ai parlé tout à l'heure pour la brochure. Et donc, c'est un collectif qui existe. C'est un collectif de chômeurs, chômeuses et de précaires à Montreuil qui n'existe plus. Mais il y a toujours leur blog où on peut retrouver plein de choses sur leur blog. Et notamment des récits de un de leurs moyens de lutte, c'était de faire irruption dans des CAF, des Pôle emploi, pour débloquer à plusieurs des dossiers pour mettre un peu la pression à la direction de ces endroits pour faire avancer des dossiers. Donc voilà, toujours l'idée de ne pas rester isolé et aller à plusieurs dans des caves des Pôle emploi. Et un autre...
Sur ça, ça me fait penser au fait que c'est un autre truc sur lequel on était tombé en préparant l'émission, que le numérique et l'automatisation des procédures, en fait, ça, c'est concomitant avec la disparition des espaces physiques et des endroits où tu peux aller, où tu as un guichet, où tu peux t'adresser à quelqu'un, où tu peux te plaindre quand tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Et en fait, du coup, ben, le numérique, justement, ça tend à empêcher et à faire disparaître les endroits où tu peux aller à plusieurs, foutre la pression, justement, comme au contrôleur dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, c'est aussi un des autres enjeux du numérique qui, enfin, empêche de lutter, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, dans les trucs dans le récit d'irruption dans les caves des plans emploi, il disait qu'aussi un des objectifs, c'était de rencontrer d'autres allocataires qui pouvaient être isolés et du coup pouvoir créer groupes, du collectif, ouais. Et plus rester isolé chacun face au guichet de la CAF et de Pôle emploi. Et un autre truc dont on voulait vous parler de collectif qui s'organise, c'est une assemblée des chômeurs et des chômeuses qui se réunit tous les lundis à 11h au DOC dans le
19e.
Et voilà, et c'est qui appelle à une réappropriation collective du chômage pour rompre avec l'isolement, s'échanger des astuces, de l'entraide, et voilà, et parler, se retrouver, quoi.
Ouais.
Je crois que plus exactement, tu me dis si je me trompe, ça s'appelle Coopérative du Chômedu. Non, c'est ça le...
Ouais, c'est ça. Coopérative du Chômedu Paris-Est.
C'est juste pour, si ça intéresse des gens, de retrouver.
Donc la Coopérative du Chômedu Paris-Est, tous les lundis à 11h, c'est tôt 11h, hein, la Coopérative du Chômedu Paris-Est, au DOC. Donc voilà, c'est aussi à Paris, et le DOC, ça s'écrit D-O-C.
Ouais. Voilà. DOC ?
DOC, ouais, je crois que c'est ça. Pile, tu veux ajouter un truc ?
Oui, c'est au 34 rue du Docteur Potin, le DOC.
Super,
voilà l'adresse, 34 rue du Docteur Potin, à Paris 19e. Voilà à peu près ce qu'on avait envie de dire pour cette première émission. On vous remettra toutes les infos qu'on a utilisées sur le blog. Et puis, au maximum, genre, kiffez vos vies et travaillez le moins possible, quoi.
Bah ouais, grave, et puis bah n'hésitez pas à appeler tous ceux qu'on aime et qui ont envie de participer de près ou de loin à cette émission, soit notamment pour apporter des compléments, parce que voilà.
On pourra faire encore d'autres émissions. On est encore là pendant la dernière pause musicale et le générique, donc le numéro, c'est 01 43 71 89 40. Voilà pour nous. On se retrouve dans 2 semaines pour une émission qui sera sur quoi déjà ?
Sur... Attends, c'est ça ? Sur le fichage ? Non.
Ah, sur le fichage et c'est sur les empreintes, hein, c'est ça ? Exactement. C'est, plus ou moins, c'est ça. Sur la prise d'empreintes. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Plus ou moins, mais bon, pile à la technique.
Bon, sur c'est le en fichage. Préparation.
Vous pouvez écouter dans 15 jours, vous en saurez plus. Voilà. Bonne vie. Bonne soirée
déjà.
Ouais, bonne soirée.
Salut.
Carapatage, une émission contre toutes les cages.
Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage, contre toutes les cages.